Merci. Nous lirons à partir du verset 21. Et Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, donc en dehors des frontières d'Israël, pas trop loin de là où il a vécu, à Nazareth, mais au nord-ouest de cela, de là. Une femme cananienne, donc qui n'est pas juive, une femme païenne, qui venait de ces contrées, lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Vous pouvez imaginer, Marc nous dit que c'était dans une maison que ça s'est passé, que la femme est entrée, elle était angoissée. Elle cria vers le Seigneur Jésus et j'imagine que même les disciples furent très, très étonnés que Jésus agit comme si la femme n'avait rien demandé. Il ne répond pas par un seul mot. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Apparemment, là, elle répétait ses angoisses et ses demandes. Et Jésus, ne disant rien, a fait penser aux disciples qu'il ne voulait pas avoir affaire avec cette dame. Jésus refuse d'obéir aux disciples, il ne renvoie pas la femme. Donc là, il y a déjà quelque chose auquel il faut faire attention. Il ne la renvoie pas, c'est déjà positif. Il répondit, maintenant il va lui parler, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Jésus est en train de lui dire que le Messie, dans son ministère terrestre, est envoyé uniquement pour prêcher aux Juifs la bonne nouvelle et pour montrer la puissance du royaume de Dieu qui promet par des miracles et des guérisons en faveur des Juifs. En faveur des Juifs. Jésus, son ministère personnel est cantonné parmi le peuple de Dieu. Nous savons très bien que le plan de Dieu, c'est que la grâce de Dieu aille à toutes les nations, mais seulement après. C'est le plan de Dieu. C'est son Père, il a dit que j'ai été envoyé. Le Père m'a envoyé pour un ministère auprès d'Israël. Et tu es cananienne. Ok? Mais elle vint se prosterner devant lui. C'est un peu embarrassant. Pour ceux qui sont dans la maison, maintenant la dame est par terre devant Jésus. On voit son angoisse et quand même poignante et touchante. Son désir est très grand. Et elle dit, « Seigneur, viens à mon secours. » Et il répondit, maintenant c'est la troisième demande, et c'est la troisième fois que Jésus va soit refuser de répondre ou répondre. Cette fois, il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alors, le mot qu'il utilise ici, petit chien, ce n'est pas un mot péjoratif, parce que parfois les juifs appelaient les non-juifs chiens. C'est pas ce mot-là qui est utilisé, c'est un mot qui veut dire les petits chiots. Oui. Donc les petits chiens domestiques qui pouvaient se trouver sous la table au moment du repas. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. En d'autres termes, il n'est pas bien que je prends de mon temps, ma puissance, de ce que je dois donner à Israël, selon le plan du Père, et que je me détourne d'Israël, qu'elle perde une partie de mon ministère parce que je tourne vers les païens, vers lesquels le Seigneur m'a pas envoyé pour le moment. Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Et alors même, sa fille fut guérie. Souvent dans la Bible, nous avons un enseignement sur la prière qui nous dit que pour obtenir ce dont nous avons besoin, il faut persister. Pierre vous a lu cette parabole de l'homme qui va à minuit chez son voisin. Et le but de la parabole, c'est quoi? Jésus donne cette parabole pourquoi? Pour montrer que il faut importuner et persévérer dans la prière, n'est-ce pas? Il dit dans la parabole, même si son ami ne se lève pas et ne lui donne pas le pain parce que c'est son ami, il le fera parce que il ne cesse de l'importuner. Donc l'importance de la persistance dans la prière. Est-ce que vous pouvez penser à un autre passage qui parle dans ce sens?
Il pria avec instance pour qu'il pleuve. C'est pas dans Jacques.
D'accord. Élie a prié 7 fois qu'il pleuve. Et les 6 premières fois, il n'a pas plu. La 7e fois, il a plu. Il y a aussi Luc chapitre 18 où Jésus donne une autre parabole au sujet d'un juge inique. Et donc une femme qui ne cesse de l'importuner. Et dans ce passage, nous lisons ceci vers la fin. Ensuite, il dit en lui-même, le juge, « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve me cause des ennuis, elle me casse les pieds, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Et le Seigneur ajouta, « Entendez ce que le juge unique dit. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ? Et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ce que tu veux. » Alors, je veux vous donner quelques mots d'introduction et nous allons essayer de comprendre parce que nous sommes tous confrontés à ce problème, n'est-ce pas? Vous priez pour ce parent qui n'est pas sauvé, vous priez pour ce besoin personnel que vous avez et vous priez et vous priez et vous priez et il n'y a pas d'exaucement. George Müller a commencé à prier pour 5 de ses amis quand il avait, je ne sais pas, il devait avoir 40 et quelques années. Il y en a 3 qui sont convertis après 5, 8, 12 ans de prière à peu près, mais 2 qui sont restés inconvertis. Il a prié, a dit-il, 52 ans, tous les jours, sans jamais rater un jour pour ces 2 hommes. Et il est mort. Les 2 hommes, il est mort très vieux, hein, vous pouvez imaginer. Les 2 hommes étaient présents, vivants et présents à ses obsèques. Et quand la vie de Müller a été racontée, ses amis de jeunesse de George Müller ont été profondément touchés. Et dans les quelques mois qui ont suivi, les 2 se sont convertis. Mais prière vraiment persévérant. Nous allons donc essayer de comprendre pourquoi se fait-il que Dieu demande que nous persistions. Maintenant, les païens d'autrefois auraient donné une réponse. Vous le savez, leur réponse? Les païens persistaient avec leur Dieu pour quelle raison? Parce que pour eux, c'était un tyran imprévisible et il fallait l'apaiser et le satisfaire par différents moyens et comme ça, on obtenait ce qu'on voulait. À cause de son mauvais caractère, on devait persister. Les païens modernes regardent les choses autrement. Eux, dans nos grandes villes, ils pensent qu'il y a probablement ou peut-être une force quelque part auquel on a accès à n'importe quel moment sans question et sans problème. Mais nous allons voir que ni l'un ni l'autre approche est vrai. Ok, essayons de comprendre. Tu pries pour cette chose tellement longtemps. Pourquoi Dieu demande-t-il la persistance? À la première vue, quand on regarde Jésus avec cette femme, il semble que Jésus cherche tout simplement, et d'après les autres paraboles, qu'il cherche à ce que nous soyons tout simplement ténaces. Que nous soyons têtus. Mais quand nous lisons de plus près les passages, nous apprenons que Jésus ne cherche pas la ténacité en soi, la persistance en soi, parce que ça peut être tout simplement l'entêtement. Est-ce que le Seigneur veut que tu sois tout simplement entêté? Je ne pense pas. Quand nous lisons les passages de plus près, qu'est-ce que Jésus cherchait? Que voulait-il chez la dame? Qu'est-ce que dit le passage? Femme, ta foi est grande. Qu'est-ce que la foi? La foi est une réponse à quelque chose que Dieu a montré sur lui-même. Ce que Dieu veut développer chez toi quand tu pries et quand tu dois prier beaucoup, il veut que tu grandisses dans ta réponse à quelque chose qu'il a montré sur lui-même. Nous allons essayer de comprendre cela. Ça, c'est beaucoup très différent de la ténacité égoïste. La ténacité égoïste, c'est quand tu vas à la préfecture et tu insistes sur quelque chose que tu veux. Et pourquoi? Simplement parce que toi, tu es une personne qui veut ta volonté et qui n'accepte pas un refus. Qui n'accepte pas un non. Et tu restes là devant le guichet et tu dis, j'ai mes droits, je veux ce que je veux et je persiste jusqu'à ce que vous me le donnez. Ce n'est pas une réponse à quelque chose chez le guichier, quelque chose que l'État français a montré sur sa volonté et sa bonté. C'est juste que toi, tu es égoïste et ce que tu veux, tu le veux et tu vas insister. D'accord? Nous ne sommes pas devant cela, nous sommes devant le fait que Jésus veut que vous ayez une réponse à quelque chose qu'il a révélé sur lui-même, qui s'appelle la foi, la confiance. Maintenant, nous allons quitter un moment la femme cananienne et je vais vous parler d'une autre femme, parce que c'est là que tout le problème a commencé, Ève dans le jardin. Alors, il y a deux choses qui se sont passées dans le cœur d'Ève quand elle a chuté, qui nous a plongé dans une manière de fonctionner qui est vraiment très mauvaise. Je vous explique. Vous vous rappelez, donc Satan lui a montré cet arbre interdit et lui a dit que c'est par manque de bonté que Dieu a interdit cet arbre. Parce que cet arbre, c'est la clé même. Ça va vous donner la sagesse dont vous avez besoin pour devenir comme Dieu. Donc, il a dépeint Dieu dans une façon qui n'est pas, Dieu n'est pas bon. Et voilà ce que le texte biblique nous dit. Le texte nous dit que, au verset 6, la femme a vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. dans le cœur d'Ève, il y a eu un changement. Avant ce moment, elle croyait que Dieu était bon, la bonté même, et elle pouvait simplement dépendre de lui, et de lui viendrait de lui-même, de son initiative, de sa pensée, de son désir de le bénir, viendrait tout ce qu'il lui fallait. Mais maintenant, elle croit autrement. Elle se dit, ah, voilà, il y a au moins une bonne chose ici, parce que je vois que l'arbre est bon à regarder, bon, le fruit est bon à manger, et c'est bon pour donner la sagesse. Donc j'ai finalement compris. Moi, j'ai envie de cette bonté de cet arbre, mais Dieu n'a pas envie que j'aie la bonté de cet arbre. Donc là, il y a un problème. J'ai plus de bonté dans mon cœur que Dieu. Je veux des bonnes choses pour moi et d'autres aussi que Dieu ne veut pas. Et souvent, c'est vous, n'est-ce pas? Quand vous priez, vous avez tellement envie du salut de ce parent ou de ce bien, et quelque part au fond de vous, vous vous dites, pourquoi est-ce que Dieu ne le veut pas autant que moi? Moi, je le veux de tout mon cœur, et je ne suis pas sûr que Dieu le veut. Et on questionne la bonté de Dieu. Je ne vais pas entrer dans les nuances de la souveraineté de Dieu pour le moment, mais je veux juste que vous voyez que parfois, même concernant des choses que Dieu vous a promis, certainement il va vous donner, en attendant, vous doutez. Vous doutez. Est-ce que Dieu veut vraiment me bénir autant que moi, je veux me bénir? Ou bien, est-ce que Dieu veut bénir mon ami autant que moi, je veux qu'il soit béni? Et nous sommes Ève. Nous voyons un bien, et nous voyons que, au moins pour le moment, Dieu ne nous donne pas ça. Et nous concluons. Nous avons plus de désir pour le bien que Dieu. Ça, c'est grave. Et maintenant, Ève va plus fonctionner par la foi en Dieu et sa bonté. Elle va fonctionner selon son désir pour le bien. C'est moi qui veux le bien et je vais le chercher. Je ne peux pas dépendre de Dieu de le chercher pour moi parce que parfois il ne veut pas mon bien. Alors c'est moi, je vais devenir têtu, entêté, insistant, persistant et je vais chercher par tous les moyens possibles. Je vais prendre ce que moi je trouve bon parce que je peux dépendre de mon cœur et de ma bonté. C'est ça qui va diriger ma vie. Et il y a plein de gens dans ce monde qui refusent de venir à Dieu parce qu'ils pensent qu'ils sont plus fiables que Dieu, parce qu'ils veulent le bien plus que Dieu. Et ils savent ce qui est bien, mieux que Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, on souffre aussi de cela parfois dans notre manière de prier. Il y a juste une autre chose au sujet d'Ève. Je pense que Ève avait un problème aussi au sujet de ses droits. Elle a pris de l'arbre aussi parce qu'elle pensait qu'elle en avait le droit. Comment est-ce qu'elle est arrivée à croire cela? Parce que Dieu avait interdit cet arbre. Mais je crois qu'elle a raisonné comme ceci. C'est une bonne chose, cet arbre. Moi, je peux voir. Ça donne la sagesse, le fruit est bon, c'est agréable à voir. Et priver quelqu'un de quelque chose qui est bon, c'est mauvais. Oui ou non? Priver quelqu'un de quelque chose qui est bon pour eux, c'est mauvais. Donc, moi j'ai droit à cela. Comme c'est bon pour moi, j'ai droit de prendre tout ce qui est bon pour moi, parce que c'est bon. Et quelque part, nous sommes arrivés à penser que tout ce que nous voyons, que nous pensons bien pour nous, on a le droit à ça. Et donc, nous fonctionnons comme ça dans la vie. Désormais, nous comptons sur notre cœur. Moi, je veux le bien pour moi. Au moins, je peux compter sur moi. Et je vais arracher les choses parce que j'en ai le droit. Nous allons maintenant revenir à la femme canadienne pour pas canadienne, surtout pas, mais cananienne pour la comprendre. Ok, donc voilà ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu nous exige de persévérer dans la prière parce qu'il veut exposer la base sur laquelle nous voulons obtenir le bien. Tu pries, tu dois insister. Et quand tu dois insister sur une base, un argument. Et la raison pour laquelle tu penses que tu as vraiment, tu dois avoir accès à ce bien, ça devient clair. N'est-ce pas? À force de pouvoir, tu vas à la préfecture, tu es au guichet, et la personne dit non au début, et tu lui donnes des arguments. Et maintenant, cela expose la base sur laquelle tu penses arriver au bien, à ce qui est bon. Est-ce que toi, quand tu pries et quand maintenant tu dois persister et donner des raisons, pour ainsi dire, à Dieu, quand la raison, quand ton fonctionnement est exposé, est-ce que c'est la foi dans la bonté de Dieu qui t'amène à persister? Est-ce que c'est la confiance que Dieu veut te bénir avec tout ce qu'il te faut, de vraiment nécessaire? Pas ce que toi tu penses qui est bon. Parce qu'attention, parfois il y a une chose qui est bonne en soi, comme cet arbre interdit, mais ce n'est pas bon dans tout le plan de Dieu. Hein? Moi je veux épouser cette personne. Maintenant. Ou je veux être guéri de telle maladie. La guérison, c'est une bonne chose en soi, mais peut-être ce serait la plus mauvaise chose possible pour toi d'être guéri, comme pour Paul. La meilleure chose pour lui, ce qui était bon, c'est qu'il reste avec cette maladie, parce qu'à travers elle, il n'allait pas céder à la tentation de l'orgueil. Donc attention à ta confiance en toi-même pour discerner ce qui est vraiment bon dans tout le plan. Ok? Je reviens à ce que je disais. La base, pourquoi, sur quelle base es-tu vraiment en train de supplier Dieu quand toi tu pries? Est-ce que c'est simplement parce que tu es têtu et tu veux que ton fils soit sauvé? Ou ta mère? Ou ton frère? Ou ton voisin? Ou ton ami? Est-ce que c'est simplement que tu es vachement égoïste? Ou bien que toi, tu penses, je sais ce qui est bon, et si j'insiste, je l'aurai. J'ai confiance en moi, en mon jugement et en ma persistance. Ou bien, est-ce que c'est parfois en Dieu et son initiative, ce que lui, il entend faire dans la vie des hommes, ce que lui, il a promis? Ce qu'il est, sa capacité de savoir ce qui est bien pour toi. Ah, ça c'est très différent. Maintenant, nous allons prendre le cheminement entre Jésus et la femme, mais très rapidement. Trois fois la femme sollicite Jésus dans le texte. La première fois, et vous allez voir que chaque fois Jésus ouvre la porte un tout petit peu plus à elle. Et vous allez voir que quand vous persistez dans la prière, il y a des refus. Parfois, c'est des refus tellement catégoriques que vous avez l'impression que Dieu dit un non final à vos prières. Donc, au début, elle reçoit quelque chose comme ça. Elle vient tout angoissée et Jésus ne dit rien. Est-ce que vous avez prié pour quelque chose qui vous angoisse? Et le ciel était silencieux. Pas un mot, pas une indication de la part de Dieu. Il ne vous donne aucune paix, aucune assurance qu'il a entendu vos prières. Silence! Voilà ce qu'elle a eu, cette dame. Mais attention, parce que Jésus n'est pas en train de la refouler, mais en train de l'éprouver. Et au fur et à mesure, Jésus va ouvrir la porte un peu plus chaque fois. Les disciples disent, renvoie-la. Et Jésus, qui ne dit rien à la femme, ne dit rien aux disciples. Non, je la renverrai pas. je la laisse. Pourquoi est-ce que tu vas laisser quelqu'un dans la maison si tu n'entends pas répondre à sa requête? Si le non est final, il est logique de la renvoyer. Mais Jésus ne le fait pas. Donc, la porte s'ouvre un tout petit peu. Deuxième fois, la dame vient insister un peu plus parce que elle se plie devant Jésus et se met à genoux carrément et elle appelle Jésus Seigneur. Seigneur, viens à mon secours. Et Jésus, cette fois, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus ouvre la porte un peu plus. Comment? Il lui parle. Il lui parle. Ce n'est pas la même réponse. Il y a une avancée, il y a un changement. Mais il dit quelque chose qui semble fermer la porte. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis d'Israël. Pourquoi dit-il cela? Sans doute, il veut éprouver la femme pour voir si elle pense avoir droit au miracle de Jésus, aux guérisons de Jésus, sans être une juive, sans faire partie de ce peuple de grâce choisi souverainement par Dieu. Juste parce qu'elle le veut, attention, on revient à Ève, juste parce qu'elle le veut, elle pense de pouvoir l'avoir. Jésus l'atteste pour voir. Il dit, non, sur cette base, tu n'auras rien. Je n'ai été envoyé que vers un peuple souverainement et gracieusement choisi. Mais au moins, il a répondu. Ensuite, elle dit, quand elle insiste encore, c'est plutôt cette fois qu'elle vient se mettre à genoux et lui dire, Seigneur, viens à mon secours. Il répondit la troisième fois, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Encore maintenant, il lui montre qu'elle est en dehors du peuple de Dieu, choisi par la pure grâce. Et donc, ça semble être un non. Mais elle voit que Jésus a ouvert la porte beaucoup plus. Parce que il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens qui sont là à la table. Mais la question c'est, pourquoi un chien est-il auprès de la table? C'était étonnant pour nous, en venant en France, d'aller dans un bon restaurant parfois et de voir des gens avec un chien dans le restaurant, sous leurs pieds. Waouh! Les cultures sont différentes. Mais pourquoi est-ce qu'un chien est à la table où les hommes mangent? Parce que, et seulement parce que, le maître de la maison a l'habitude de permettre qu'il mange ce qui tombe de la table. Et la femme le saisit, le comprend, et elle relève ce fait, cette réalité. Elle dit, « Oui, Seigneur, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » La femme a compris que Jésus est en train de révéler comment Dieu est. Il est en train de rappeler ce que l'Ancien Testament dit, et je crois que cette dame n'était pas une simple païenne, elle devait être probablement une prosélyte. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'elle appelle Jésus fils de David. Et fils de David est le terme par excellence que les Juifs utilisent, connaissant le Nouveau Testament, que le Messie est le descendant David. Et c'est plein de sens cette phrase. Est-ce qu'elle a était à la synagogue? Est-ce qu'elle a entendu les Écritures? Est-ce qu'elle a entendu des gens qui parlaient du Messie? Elle savait certainement qui était Jésus et qui prétendait être le Messie ou que les gens disaient qu'il était le Messie. Est-ce qu'elle s'est rappelée qu'on avait dit que chez lui, pas loin de là où ils sont en ce moment, il a cité Isaïe et il a dit que le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir les malades, pour faire voir aux aveugles, pour faire des miracles. Est-ce qu'elle se rappelle que dans les histoires qu'il y avait toujours, même quand la grâce de Dieu était pour Israël, il y avait toujours quelques gens païens autour qui mangeaient les miettes? Ruth. Et Naaman. Et bien d'autres. Des païens qui, en contact avec Israël, ont profité de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. Est-ce qu'elle a, en réfléchissant, elle a compris que il est comme ça, le Dieu d'Israël? Il a une bonté un peu débordante. Hein? Il donne tellement que ça tombe de la table. Ça tombe toujours, il y en a toujours qui tombent partout. Et donc, ce qu'il donne dans sa grande bonté à son peuple n'est pas toujours seulement pour eux. Il y en a, il y en a. Et d'autres qui ne sont pas d'Israël profitent. Je ne sais pas combien elle savait, mais elle comprenait que Dieu était comme ça parce que Jésus félicite sa foi. Et la foi est une assurance de ce qu'il a été révélé. Elle peut pas imaginer un Dieu qui est comme ça. Elle peut répondre au fait que Dieu a montré aux hommes qu'il était comme ça. Elle a un grand discernement dans le caractère même de Dieu. Parce que, à l'opposé d'Ève, la femme cananienne comprend que Dieu, c'est Dieu qui est bon. Il veut bénir plus que je ne veux être béni. Et il veut tellement bénir qu'il a du mal à garder son pain sur la table. Il en répond un peu partout. Et je sais pourquoi tu m'as pas renvoyé. Je sais pourquoi tu me parles ainsi. Je te vois venir, Jésus. Tu es en train d'ouvrir la porte de plus en plus à moi. Et tu veux voir sur quelle base je pense et j'espère avoir ta bénédiction. J'avoue que je suis un chiot. J'avoue, j'accepte cette place. Je ne suis pas la personne qui vient revendiquer ses droits à la préfecture. Je suis la personne qui dit, tu es le Dieu qui bénit ceux qui ont démérité cela, ceux qui sont en dehors, ceux qui n'ont plus aucun droit. Tu es le Dieu qui les bénit aussi. C'est ça ma confiance. C'est ça mon espérance. C'est ça ma foi. Vous savez, dans ce monde, on n'a aucune conception d'une personne qui insiste parce que Dieu est bon et plein de grâce. La seule persistance que nous connaissons dans la culture française aujourd'hui, c'est la persistance qui vient du fait de mon égoïsme et de ma revendication de mes droits. Je persiste parce que moi je mérite ça. Je suis français, j'ai mes droits, et je le veux. Ça c'est là-bas, ça tourne autour de moi. Et Jésus est en train d'enseigner la femme de vivre complètement autrement. Et il veut nous enseigner aussi, nous, à vivre en insistant parce que Dieu est bon. Et nous l'avons compris. Je prie encore, non pas parce que je suis têtu, mais parce que Dieu m'a fait savoir et il veut que je vive dans cette réalité. Il veut que je ne lâche jamais cette réalité, qu'il est le Dieu qui bénit. Qui bénit. Et qui est bon. Et qui bénit les indignes, les chiots, qui n'ont pas droit à la table. Mais qui peuvent être quand même bénis par l'Éternel. Où est-ce que nous en sommes? Quand vous priez et priez, est-ce que vous devenez frustré, comme moi parfois? Est-ce que vous doutez de la bonté de Dieu? Est-ce que vous tournez autour de simplement votre désir d'avoir les choses ainsi? Ou bien est-ce qu'au fil du temps, Dieu vous affine, il vous raffine, il vous purifie votre foi, et vous n'êtes plus sûr de vous-même, de votre droit d'avoir le truc, de que votre bonté, votre désir du bien, c'est la clé du monde, de l'existence. Non, vous devenez confiant que la clé de l'existence, c'est que le cœur de Dieu est bon. Et à cause de cela, vous ne pouvez que prendre espoir et persister. Que Dieu nous aide à comprendre pourquoi il nous traite ainsi, que nous puissions prendre courage et ne pas nous décourager quand nous sommes obligés de prier beaucoup pour quelque chose. Le non n'est pas toujours un non chez Dieu. Parfois, c'est un oui, j'ouvre la porte un peu plus, mais tu dois venir à cause de ta confiance en moi, en ma bonté, et pas dans ta confiance en ta persistance égoïste et tenace. Je me rappelle d'une dame que je connaissais une fois qui était presque obsédée par le salut de son fils. Elle me parlait constamment de cela, elle priait, elle gémissait, elle pleurait, elle criait à Dieu pour sauver son fils, sauver son fils, sauver son fils. Dans un premier temps, je crois qu'il a fallu qu'elle comprenne qu'elle n'avait pas le droit au salut de son fils, de revendiquer ça comme un droit. On peut pas venir, le salut n'est jamais un droit. C'est pas sur cette base qu'on demande à Dieu. Et au fil des années, je crois qu'elle a compris de mieux en mieux à se confier non pas dans sa grande angoisse, sa grande ténacité, sans vouloir à elle, mais dans le vouloir de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu va sauver tous nos enfants ou tous nos amis, mais ça veut dire qu'il fera tout le bien dans le grand plan. Tout le bien qui est nécessaire à sa gloire. Nous pouvons nous reposer en Dieu. Il n'y a rien dont nous avons vraiment besoin en tant qu'enfants de Dieu que Dieu ne donnera pas à cause de sa bonté en son temps. Et c'est ça que nous devons commencer à apprendre. Nous allons chanter. Le numéro 312. Que ton fidèle amour, et après cela nous prierons. Que ton fidèle amour est une grande chose, ô Dieu mon Rédempteur, mon rocher, mon gardien. Oh, quel puissant soutien, oh, quel puissant soutien. Que ce bras de ta grâce me cause heureuse. Oui, je marche avec toi dans mon pèlerinage. Autrefois j'étais seul, sans guide et sans sauveur. Mais aujourd'hui, Seigneur, je poursuis avec toi mon tendre pèlerinage. Bien-aimé fils de Dieu, mon cœur plein d'allégresse, dans la paix de la foi, se tient sous ton regard. Oh, quelle riche part, oh, quelle riche part, mon âme chaque jour possède dans ta tendresse. Ainsi moi ton enfant, Seigneur, devant ta face, je marche vers la gloire et la félicité, et pour l'éternité, ton amour près de toi me réserve une place. Si vous voulez prier, c'est le moment. Sentez-vous libre de prier Dieu.
Seigneur, nous te disons merci pour ce rappel de la preuve de persévérance que nous devons faire dans notre rapport à toi, dans la prière, quand nous nous adressons à toi. C'est vrai que nous vivons dans un monde qui plutôt nous invite à l'impatience. Quand nous voulons les choses, nous les voulons tout de suite. Et très souvent, quand tu ne nous réponds pas ou bien quand nous n'avons pas la réponse, soit nous perdons courage ou nous voulons faire les choses par nous-mêmes. Merci de nous rappeler cette dépendance à toi. Merci de nous rappeler cette sagesse, de savoir que toi, tu connais mieux que nous notre vie. Tu connais mieux que nous notre devenir. Tu sais mieux que nous ce qui va se passer. Et tu sais mieux que nous ce qui est bien pour la route à laquelle tu nous appelles. Merci de nous aimer autant. Merci de prendre soin de nous de cette manière. Mmh. Merci Seigneur Dieu de nous priver même parfois des choses qui seraient bonnes à notre Dieu, à nos yeux. Mais tu nous les prives parce que tu sais qu'il y a mieux que ça pour nous. Merci. Mmh. Merci pour ton amour parce que je peux le dire, c'est, même si parfois tu prends le temps pour répondre, mais nous avons cette certitude que tu nous conduis.
Oui.
Nous avons cette certitude, Seigneur Dieu, que tu prends soin de nous. Nous avons cette certitude, au Père, que nous ne sommes pas seuls. Notre vie ne va pas au hasard. Tu es là à chaque pas. Tu es là à chaque étape du chemin. Et tu sais où tu nous conduis. Et ce matin, le psaume 23 parle un peu pour chacun de nous. Oui, tu es ce berger qui nous conduit. Tu es ce berger qui prend soin de nous. Tu es ce berger, Seigneur, de qui nous protège dans la vallée de la mort. Tu es ce berger, Seigneur, de qui nous conduit sur le sentier de la justice. Oui, tu es ce berger, Seigneur, de qui nous protège de tout et qui prend soin de notre âme. Merci de nous aimer autant. Merci, Seigneur, de continuer à prendre soin de nous. Merci, Père, de faire... Bon, tu le fais, je ne fais que te remercier. Merci pour nous. Merci aussi pour tous ceux sur terre, partout où ils sont, Seigneur Dieu, et dont tu veilles sur leur vie. Et que tu prennes soin d'eux. Merci encore. Et c'est la prière que je t'adresse. Au nom de Jésus ton Fils. Bienvenue sa vie pour nous. Amen.
Amen.
Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous doutons, nous gardons dans nos cœurs les idées que tu es un Dieu dur. Oh Seigneur, quelle injustice. Et aide-nous à croire, Seigneur. Donne-nous cette foi qui te glorifie en te demandant et en osant se demander des choses plus grandes que nous pouvons imaginer.
Mmh.
Amen.
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 Seigneur, c'est facile pour nous de méditer sur ces choses et de dire oui, oui, je sais tout ça, mais c'est vrai que quand nous nous examinons, nous voyons que la femme cananéenne était quand même exceptionnelle et nous sommes plutôt comme les autres souvent. Notre foi défaille assez facilement. Nous le confessons et nous prions comme Nicky l'a prié, augmente notre foi. Et aide-nous à sonder tes écritures pour voir ce que tu as révélé sur toi-même, car c'est là la base de notre confiance en toi. Ce que tu as dit, ce que tu as promis, ce que tu as montré de ta personne, infiniment bon. Nous te remercions, Seigneur, de ce que nous pouvons nous reposer dans ta bonté et nous fier à ton cœur et arrêter de nous fier au nôtre. Aide-nous, Seigneur, nous te prions de vivre cette vie de confiance en toi parce que la confiance te glorifie plus que toute autre chose. Aide-nous à glorifier ton nom en étant complètement certain de toi et ta bonté. Amen. Je vous rappelle que nous aurons la réunion de prière ici mercredi à 18h. Tous sont invités si vous voulez venir. Donc ça c'est la seule annonce pour le moment. Bon dimanche.
Merci.